LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Renouveau du cinéma marseillais, Massilia Guérilla. Épisode 2. Guérilla ou industrie ? Si des cinéastes marseillais ont pu s'imposer à la force du poignet au cœur de l'industrie du cinéma français, en montant à la capitale, tels que Guédi Guian, J.B. Marlin ou Avzia Herzi, qu'en est-il de la production locale indépendante ? Lorsque les portes des productions parisiennes se ferment, que les financements se font impalpables et que l'impatience créatrice stimule la scène phocéenne, d'autres voix alternatives se font entendre. Nous allons à la rencontre de la nouvelle vague marseillaise, place du Cours Julien, quartier élu le plus cool au monde par le site Time Out, qui mélange galériens, sans-papiers, hipsters, créatifs, bobos et précaires, dans un espace saturé de graffiti. Nous retrouvons Didier Darwin, clipper légendaire d'IAM, Sabrina Nouchi, femme orchestre, qui a réalisé en mode guérilla, sans financement, pas moins de 7 longs métrages, Sabri Jarod, comédien et réalisateur de La Dernière Danse, et Milo Chiarini, ancien policier et comédien, qui vient de réaliser Mon Milieu, son troisième long métrage autoproduit, dans lequel il tient le rôle principal.
Alors là, on est sur le Cours Julien.
Didier Darwin.
Je taillais l'école à Aubagne pour venir squatter ici, écouter de la musique, nous saouler, nous groguer. C'était un vrai spot, il y a l'espace Julien qui s'est créé derrière, qui est un haut lieu de... des concerts marseillais.
Moi, j'ai travaillé ici en tant que serveuse et barmaid pendant 14 ans.
Sabrina Nouchi.
Et juste derrière le Mélo Café, t'as ma belle-sœur. Et dans la rue Cruder, la Fiesta, et t'as ma belle-sœur et mon frère. Et j'ai tourné dans la rue Cruder mon film Juste Sam, dans ce resto-là et le resto-là derrière. C'était à ma famille, donc c'est comme ça que je payais mes films. Ah.
Marseille, c'est à toi, en fait.
Ça allait plus. Ils ont vendu les deux.
Ah ouais.
Mais ouais, ouais, ils avaient des affaires sur le Vieux Port, le Locarno, tout ça.
Ah ouais.
Le Pourquoi, la boîte de Zouk. Mais
carrément, je connais bien.
Et mais voilà, c'était mes frères.
Oh, c'est drôle.
Ouais.
Et toi, Sabri ?
Pour Julien. Pour Julien, ben moi.
Mais lui, il est Miramas.
Pas, j'habite à côté de Marseille, moi, j'habite pas. J'habite à Miramas.
Sabri Jarod.
Mais sinon, je venais souvent à Marseille. J'ai fait mon école d'acteur à Marseille. J'ai fait mes études à Aix, à côté sinon, et j'ai grandi à Miramas.
Et toi, t'as des souvenirs, Milo, d'arrestation ici?
Ouais, je vais les taire parce qu'elles étaient rock'n'roll, mais oui, ici, mais j'ai d'autres souvenirs aussi, parce que bon, je suis marseillais.
Milo Chiarini.
J'ai pas que été flic, et moi aussi, je me suis drogué ici, pareil que toi, et à l'époque du Chocolat Théâtre,
ah oui, c'est ça.
Juste ici.
Drogué, tout est relatif.
Hein, oui, tout est relatif.
C'est mis des races, on ne se piquait pas.
Bonjour, je suis Sabrina Nouchi et mon dernier film s'appelle Ça arrive et il sort au cinéma le 27 novembre.
Bonjour, Sabri Jarod, mon dernier film c'est La Dernière Danse. Il est sorti au cinéma et il sort sur Prime en novembre.
Didier de Darwin, dernier film en date Mastema, qui est en salle en juin 2022, je crois.
Milo Chiarini, mon dernier film c'est Mon Milieu, qui est sorti le 19 juin 2024.
Et toi, tu connais le travail de Didier parce que c'est un grand clipper de rap marseillais. Toi, tu es un grand fan de IAM.
Ah ouais ? Je suis un énorme fan de IAM. Par contre, je ne savais pas que c'était un clipper. Alors ben bravo pour
de là, copain.
Bravo pour ce que tu as fait, parce que moi j'adore IAM, bien évidemment, comme tout Marseillais de ma génération en tout cas, et les clips sont fantastiques, donc
ah, c'est gentil.
T'en as fait beaucoup de clips pour IAM?
Pas mal. Bah depuis en fait, moi j'ai commencé avec eux sur les pochettes, donc en fait j'ai quasiment fait toutes les pochettes du groupe et de leur production et de leur solo, etc. Et les clips, je crois que depuis 99, je réalise leurs clips, ouais, parce qu'on a monté une boîte de prod avec Akhenaton justement pour sortir du circuit traditionnel avec l'argent qui est donné, on sait où il va. Donc en fait, ouais, je réalise leurs clips et Et je fais oui, d'autres artistes aussi, et beaucoup de hip-hop, ouais, effectivement.
Mais, tous les rappeurs marseillais, hein. Soprano.
Quasiment, mais pas que, heureusement. Oui, bah oui. Et oui.
Ok.
C'est beau.
Sabri, donc t'as réalisé pendant le confinement un premier long métrage, tu peux nous en parler un petit peu ?
C'est ça. Alors, pendant le Covid, j'ai eu envie d'écrire un film à la base. Donc pendant quelques semaines, on se voyait pratiquement tous les jours avec mon co-scénariste pour écrire un autre film. Et un soir, en rentrant de notre session écriture, j'ai eu comme un déclic, un flash. Et je me suis dit, mais c'est le Covid, confinement, personne à l'extérieur, donc autant faire un film un film à huis clos. Et j'ai eu l'idée du syndrome de Stockholm. Et à partir de là, j'avais comme une flamme, et je savais qu'à tout moment, elle pouvait partir, parce qu'on a tous cette voix intérieure qui nous dit que c'est impossible et que ça ne va jamais se faire. Donc, pour ne pas prendre de risques, j'ai appelé toute mon équipe et je leur ai dit, voilà, j'ai une idée, on va faire un film très bientôt, mais par contre, je vous préviens, j'ai rien encore. J'ai pas le scénario, j'ai pas les acteurs, j'ai pas le matos, j'ai rien du tout. J'avais juste l'idée. Et ils m'ont tous dit, bah, ok, pas de soucis, on te suit. Et déjà, à partir de là, je pouvais plus revenir en arrière parce que j'avais donné ma parole et qu'eux, ils étaient aussi motivés. Donc, j'ai appelé mon co-scénariste, on a bossé sur ce projet. En parallèle, on commençait à chercher les lieux de tournage, monter l'équipe, etc. Et puis, on a fait le film. Mais c'était une belle expérience. Et d'ailleurs, c'est Milo et Sabrina qui m'ont prêté la moitié du matos. Tout veut dire, la caméra, tout ça.
Donc, Sabrina, tu connais Sabri parce que c'était ton élève ?
Ouais, ça a été un de mes élèves à l'école d'acting. Je l'ai eu 2-3 ans, je ne sais même plus. Bah, ouais, il repasse de temps en temps, comme tous mes élèves, repassent de temps en temps me voir et font des petits cours par-ci, par-là. Et comme je leur dis souvent de faire leur projet pour pas qu'ils attendent, bah, voilà, Sabri a été le premier.
Il y en a d'autres ?
Ouais, il y a une fille, Andrea Strata, qui a fait un long métrage aussi, d'autres qui font des courts métrages. Et d'autres qui ont envie de faire des longs.
C'est quoi l'école de Sabrina et Milo alors ?
Moi, honnêtement, mais vraiment, c'est pas parce qu'ils sont là, mais honnêtement, c'est l'une de mes meilleures expériences de vie. Déjà, ils arrivent à connaître des choses sur nous que nous-mêmes, on n'ose pas s'avouer. Et à partir de là, ils bossent sur ses défauts, parce que, comme elle nous dit, être acteur, et ben, il faut avoir une palette, il faut accepter d'être vulnérable, etc. Ils nous apprennent à.
C'était quoi tes défauts ?
Moi, j'avais beaucoup de défauts, Sabrina. J'étais. Tu me dis si je me trompe, mais j'avais un problème avec la vulnérabilité. J'avais beaucoup de barrières. Après, en parallèle, à côté, je suis pompier volontaire depuis que j'ai 17 ans. Ça fait que je pense qu'inconsciemment, je me suis mis ces barrières-là. Et le fait de.
Tu veux dire, du fait de ton statut.
De pompier, on voit des choses qui ne sont pas très jolies à voir. Pour dormir la nuit, honnêtement, on est obligé de se mettre des barrières.
Ah, okay.
On fait pas exprès, mais c'est comme ça. Et Sabrina, elle a réussi à m'enlever tout ça. Ouais, mais sauf qu'un acteur, il peut pas avoir de barrières. Ouais. Au contraire, un acteur, il doit être vulnérable à la caméra. Et c'était pas gagné, et puis en travaillant ensemble, on a réussi. Enfin, je pense que j'ai réussi. 5, 6,
7, 8 et 1. La dernière danse, 2024.
Tant que vous jouerez avec ça, vous ne vous libérerez jamais.
Laissez-moi partir, s'il vous plaît.
S'arrêter quand on n'en peut plus, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Pour l'instant, pour ces gens, tu n'es personne. Et quand on est personne, on essaie de sortir la tête de l'eau. Pas de dormir !
5, 6, 7, 8 !
Moi, je la connais, la peur.
J'aimerais que tu me promettes une chose.
Toi, tu te vois attendre pour développer des projets, rentrer dans...
Moi, honnêtement, le but, pourquoi j'ai fait ce projet, c'est parce que je voulais m'en servir un petit peu comme carte de visite. Et forcément, pour les futurs projets, j'ai envie d'avoir un producteur, j'ai envie d'avoir le financement, j'ai envie de payer tout le monde. Et surtout, bosser avec des productions, des distributeurs, etc. Et de faire en sorte que... qu'on puisse tourner les films dans des bonnes conditions. Parce que guérilla, c'est bien, c'est très bien même. Je pense qu'il faut faire des films guérilla.
Une école.
Mais c'est une école. Ouais. Le but, c'est quand même d'avoir des producteurs derrière. Après, je dis ça, mais peut-être que dans un an ou deux, je recommence à faire un film autoproduit si aucun producteur veut bosser avec moi ou croit pas en mon projet.
Bonjour.
toi, tu as grandi à Paris ?
Oui, dans le 18e arrondissement de Paris, Porte de Saint-Ouen.
Tu as une formation d'acting ?
C'est ça, j'ai commencé à l'âge de 7 ans.
Sabrina Nouchi.
Et à 12 ans, j'ai eu la chance de rentrer dans une troupe semi-professionnelle qui s'appelait La Boîte à Mômes, dirigée par Mireille Fievé. Et pendant 6 ans, jusqu'à mes 18 ans, elle nous a enseigné la méthode Acteur Studio et la méthode Meissner, en plus des spectacles pour enfants qu'on jouait sur les planches.
Donc tu me disais que tu avais des difficultés à trouver des rôles ? C'était pas évident
Oui, c'était pas évident parce que je faisais indienne.
Ouais.
C'était pas à la mode. Mon père est séfarade et ma mère est algérienne.
D'où ?
D'Alger. Rebeu, c'était pas non plus follement à la mode, mais je faisais même pas rebeu. Donc j'avais tout le temps le même retour où on me dit on sait pas trop d'où tu viens, donc c'est difficile de te placer. Donc je me suis dit que j'allais faire mes films.
Tu réalises ton premier long métrage, Guérilla, très jeune, à 20 ans, c'est ça ?
22, ouais. Ouais, 22 ans à Marseille, à La Ciotat, exactement. Oui, on tourne 19 jours avec l'aide de la ville de La Ciotat, ma mère, qui était la cantinière du tournage, et c'était mon premier long métrage.
Tu le tournes parce qu'on te donne pas de rôle, donc tu t'écris un rôle.
C'est ça, complètement. Je me dis, je rentre chez moi un soir, je me dis, bon, ça va être compliqué, le téléphone sonne pas. Donc en fait, je fais des castings sans cesse jusqu'à au moins 18-20 ans. Mais les réponses, c'est toujours les mêmes. T'es bien au jeu, mais on sait pas où te placer. Donc à un moment donné, je pars pour écrire un court métrage. Et puis je me dis, bah non, en fait, je vais faire un long. Parce que mon ex de l'époque, Jonathan Taïeb, qui est un réalisateur marseillais pour le coup, qui vit à Paris maintenant, avait fait un premier long métrage guérilla. Et je m'étais dit, ah, mais c'est ça, c'est simple.
Quel film ?
Ça s'appelait Le Monde doit m'arriver.
Et du coup, tu t'installes à Marseille ?
Je m'étais installée à Marseille à 18 ans déjà, jusqu'à 21 ans, où j'ai tourné... Non, j'ai pas tourné d'ailleurs. J'avais fait une école ici à Marseille qui s'appelait, je sais plus, l'EMCAM, je crois.
Et donc, tu me disais que tu avais un peu galéré, tu faisais des boulots de serveuse ?
Ah oui, moi j'étais serveuse de 14 à 18 ans. 14 l'été. Pendant que j'étais au lycée, tout ça, je travaillais l'été, surtout dans les restos de ma famille à Marseille. Jusqu'à 28 ans, j'étais serveuse barmaid. Je travaillais la nuit.
Et
tout en faisant mes films à côté, bien sûr.
Du coup, tu décides de partir en autoproduction et tu as réalisé 7 longs métrages ?
C'est ça, 7 longs métrages, oui.
Juste Sam, 2015.
C'est où que t'as appris à briquer ?
Au foyer.
Vas-y, fais-moi un truc, là.
Non, un jour, c'était sage. Tu sais briquer ?
Ouais.
Sérieux ? C'est ça ?
Non. Non, mais je sais danser.
Tu danses quoi ?
Franchement, je danse tout. Tu connais Shakira du ghetto ? Non, mais... Les slow, j'aime bien. Arrête de rigoler. Je dansais les slow avec mon père. Ouais, c'est vrai. Je mettais mes pieds sur ses pieds, on faisait un petit tour.
Trop mignon. J'ai jamais dansé de slow de ma vie.
Sérieux ?
Ben oui.
Même pas au fait du foyer ?
Non. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus gros. Donc du coup, les filles, elles voulaient pas danser avec moi.
Parce que t'es vieux, là ? C'est vrai.
Apprends-moi.
Je voulais jouer, mais du coup, j'avais pas la suite. Une fois que le film était fait, j'avais juste envie de faire celui d'après. Donc je me battais pas du tout pour qu'il sorte... Sur mes 7 films, j'ai quand même 5 films tiroirs. Mais ça me va, hein. C'était pas le but de les sortir, le but c'était de les faire.
D'apprendre.
D'apprendre, de jouer, d'écrire, de m'amuser, de m'éclater.
Alors, quand on s'est rencontrés, moi j'étais très impressionné par le fait que t'aies fait 7 longs métrages, que t'as produit, etc. Et de pas s'intéresser à la distribution. Ça m'a un peu surpris. Tu veux pas rentrer dans ce circuit, on dirait ?
Bah, c'est pas que je voulais pas, mais je pense que quand je les faisais à cette époque-là, mais tu me diras encore maintenant, mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai une tendance à faire les films pour moi, quoi. Vraiment, je vais assumer totalement ça. Je me dis pas que je vais les faire pour un public. Forcément. J'ai envie de les faire pour moi, puis une fois que c'est fait, j'ai pas besoin de la reconnaissance extérieure, en fait. C'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche à m'amuser. Je cherche à faire la seule chose qui ne m'ennuie pas sur cette planète, c'est du cinéma, donc. Et après, bon. Il y a des films que je vois... Enfin, moi, je vois leurs défauts. Je les ai faits avec 3 francs 6 sous à chaque fois. Même si je me débrouille pas mal. C'est-à-dire qu'ils font pas cheap pour le prix qu'ils ont coûté. Je vois quand même tous les défauts. Alors que le dernier, c'est le seul de mes films que je regarde et où il n'y a aucune scène, aucun plan, aucun où j'ai honte. Même une microseconde. Et celui-là, je me dis, ah, vas-y.
Mais ça joue ouais. fort, en plus.
Oui, et en plus, pour le coup, il y a aussi cet enjeu de mettre en avant tous les comédiens de la Fabrique de l'Acteur qui sont vraiment excellents dedans. C'est pas parce que c'est des comédiens de la Fabrique de l'Acteur, c'est vraiment parce que... Mais tout le monde le dit, de toute façon. Tous les gens qui voient le film hallucinent d'à quel point... D'ailleurs, la plupart pensent que c'est des... que c'est limite du docu, que c'est leur vie, et qu'ils sont venus faire... Donc, je suis contente aussi de les mettre en avant et je leur devais bien ça.
Ça arrive, 2024.
Il y a des choses dans la vie qu'on ne raconte pas, ça, on les garde pour ça.
Je ne vais pas faire tout un drame pour quelque chose dont je ne me rappelle pas.
Tu peux déposer plainte pour viol.
Si votre fille était en train de dire la vérité, là, est-ce que vous l'accompagneriez?
Non, j'étais pas consentante, mais j'ai peut-être pas été assez claire.
Parce que quand c'est un viol par surprise, c'est jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Voilà.
Juliette, je suis avec vous, moi. Moi, je veux juste qu'on les attrape et qu'ils aillent en tôle, ces enculés.
Tu sais ce que je vais te faire, espèce de fils de pute ?
Calme-toi ! Calme-toi !
J'adore tourner avec des inconnus et des talents que j'ai formés. C'est beaucoup plus rapide, simple et efficace. Et du coup, à chaque fois qu'il y a possibilité, en termes de correspondance dans les rôles, d'avoir des comédiens de la Fabrique de l'Acteur, je viens les chercher directement à l'école. Sur le dernier, il y avait 35 rôles.
Tu peux nous pitcher un peu le dernier film, ça arrive ?
Le dernier film, c'est un huis clos qui se passe dans un commissariat à la Brigade des Mœurs de Marseille, où on suit trois OPJ, donc trois officiers de police judiciaire, dans leur quotidien sur le thème des violences sexuelles faites aux hommes, aux femmes, mais pas mineures, majeures. Du coup, c'est la Brigade des Mœurs. Et on sort pas du huis clos, on enchaîne des confrontations, des témoignages, etc. Unité de lieu, commissariat, 7 jours de tournage, 38 acteurs, 4 jours d'écriture. Et on a été élu label d'utilité publique. C'est très très cool.
Où tu trouves cette énergie pour produire et tourner 7 longs métrages, jouer dedans ?
Je pense que quand tu fais ce que t'aimes... C'est pas complexe de trouver l'énergie. Hein. C'est... Moi, l'énergie, je la cherche quand je suis à un endroit où j'ai pas envie d'être. C'est là que je me dis, oh putain, qu'est-ce que je vais faire là ? Et que je mets un coup de boost. Par contre, là, franchement, ça demande sur... de l'énergie, ouais, mais c'est... j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de... J'ai un but et puis on fonce. Et... Humainement, c'est génial. Et mon objectif, c'est de tourner 3-4 films par an. D'avoir ma boîte de prod. Moi, maintenant, je suis devenue une spécialiste du film low cost. Hein, donc, j'ai la possibilité de faire 3-4 films par an. Et quand on dit low cost, tout le monde se dit oui, mais c'est cheap, machin et tout. Ouais, je suis pas sûre. Ça dépend qui l'ait fait, je pense. Et ça dépend... Enfin, moi, j'ai fait que ça pendant 13 ans. Donc, à force, tu deviens de moins en moins bancal. Apprends. Et puis aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qu'on a numériquement parlant, c'est assez simple de tourner un film qui a de la gueule sans avoir des millions. Quoi. Moi, j'adore la liberté, j'adore mon indépendance. C'est pour ça que je suis devenue productrice et distributrice. J'ai envie d'être le patron, tout simplement, en fait. J'ai pas envie qu'on vienne me dire comment écrire un film. J'ai pas envie qu'on vienne me dire comment le réaliser. Si Tarantino me parle, je m'asserrai, j'écouterai. Mais ou Woody Allen ou Haneke ou Kubrick, mais il est mort. Si Meryl Streep me parle d'acting, c'est pareil, je vais m'asseoir et je vais écouter très attentivement.
Donc t'as du mal à te connecter avec le cinéma français actuel ?
Ouais, j'ai du mal à me connecter avec les gens qui sont pas cinéphiles, qui ont vu aucun film, mais qui te disent ce que le public attend. Comme s'ils avaient la vérité absolue, comme s'ils avaient fait un sondage des millions d'habitants qu'on est en France et qui s'étaient dit, voilà, nous on a la recette, on sait. J'ai du mal avec ça, ouais. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de règle. À chaque fois qu'on n'a pas voulu d'un film, il a fait des millions d'entrées. Donc, quand j'écris, j'ai envie de tourner vite. J'ai pas envie d'attendre que lui trouve le budget, elle m'accorde le budget, mettre 2 ans. Au bout de 2 ans, ça y est, je passe à un autre film dans ma tête. Donc, c'est un processus qui est trop long pour moi. Surtout que j'ai pas besoin de millions. Donc, j'ai structuré mon imaginaire dans la contrainte, donc forcément dans la contrainte, j'ai réussi à structurer mon imaginaire de manière à ce que je puisse faire les films que j'ai envie de faire avec le budget qui correspond finalement.
y a plusieurs sortes de guerriers.
Didier Darwin.
On parlait tout à l'heure de mon parcours, c'est quand on a commencé en 90 sur Marseille, tu voulais faire du graphisme, tu voulais faire de la photo, tu voulais faire de la vidéo, c'était pas là où il fallait être. Il y avait R. Avec mon associé de l'époque, Stéphane Moutaner, on a décidé d'arrêter de faire des choses pour les autres et ailleurs et de les faire chez nous, qu'importe le rythme que ça prendrait. Et on s'est appelé donc tous DK, et c'était Colossal Creative Commando. Donc j'ai toujours eu cette notion de commando, quoi, tu vois. Moi, je suis assez fanat de la guérilla. Il y a plusieurs types de guérilla, mais de toute façon, faire un film, c'est une guérilla. Ou une guerre. Enfin, pour moi, c'est une vraie guérilla endogène. C'est-à-dire qu'il faut que j'infiltre le milieu pour pouvoir mener ma guerre à l'intérieur. Tu peux la mener satellitairement si tu veux. C'est ce que vous faites et que vous faites très bien. Et franchement, je connais votre travail. Donc en fait, la guérilla, tu peux la mener à différents niveaux. Moi, j'aime bien être à l'intérieur parce que je sais qui sont mes ennemis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'aime combattre, mais je veux savoir sur qui il faut que je tape. En l'occurrence, toute la chaîne du milieu. La prod, les distributeurs, je t'en parle même pas.
Oui, Didier, donc du coup, toi, tu es parmi les quatre, celui qui est le plus confronté à cette autorité des producteurs.
Ouais.
Ce dialogue-là qui peut être très long, comment tu le vis, comment tu le drives?
Je pense qu'il y a pire que les producteurs. Je dis pire, c'est la distribution. J'ai en fait appris à mes dépens, tu vois, quand on apprend, t'as beau être à la fin de ta vie, tu continues à apprendre des trucs, c'est que ceux qui mènent le game, c'est les distributeurs quand tu veux sortir un film en salle. C'est le mec qui va t'expliquer une fois que le film est fait que bah, il n'aurait pas fallu qu'elle ait ce stage là, il aurait pas fallu qu'elle habite là, il fallait pas qu'elle dise ça. Mais man, t'es un boutiquier, t'es là pour comprendre un film, tu l'as signé en amont et tu dois le distribuer. Enfin. Ben non, c'est des super producteurs, donc des super réalisateurs. Ils savent mieux que tout le monde, que les réals, que les comédiens, que les producteurs. Et en fait, tu peux pas passer outre parce que le film dépend de lui en fait. C'est-à-dire que si le distributeur, ben en fait, tu t'es embrouillé avec, que t'as pas fait ce qu'il t'a demandé, enfin tout du moins que t'as pas échangé sur le fait qu'il t'ait demandé des choses et que tu mets un veto, lui peut mettre un veto, il te fait ton film en sortie technique. Officiellement sur le contrat, ben, il a sorti le film. Et puis voilà, tu repars avec ton petit film.
J'adore que tu puisses louvoyer. J'adore, j'aimerais. Moi, je me lève et je me casse.
C'est une guérilla. Enfin, j'ai beau faire un film officiel qui sort en salle, qui est avec Canal. Le budget qu'on a eu dessus, même si ça peut vous paraître énorme, c'est 1,5 million, mais quand tu es obligé de travailler avec 1,5 million et que tu fais un film qui, comme le dit Canal, on dirait qu'ils en ont mis 5, ça s'appelle la production value, et ça c'est de la guérilla. Parce qu'en fait, à part que c'était signé officiellement, j'ai travaillé exactement de la même manière que quand tu fais du clip avec pas d'argent ou de la pub avec pas d'argent. C'est-à-dire que c'est de la démerde, c'est arriver à motiver des équipes et travailler avec ses propres équipes, et c'est passer son temps à faire les choses que d'autres devraient faire parce qu'ils sont payés ou ils devraient être payés.
Tu faisais les effets spéciaux sur Mastema.
Ouais, bon, enfin, ils sont light quoi. Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'as plus le budget ou que t'as pas le budget pour le faire, bah les mecs ils récupèrent les maquettes que t'as fait à la base sur Photoshop et t'es anime quoi, tu vois. Mais pas que ça, on a regéré le montage derrière, on a refait le son, on a refait le sound design, enfin à la maison quoi.
Mastema 2022.
3.
J'ai des images dans la tête.
2.
Il y a clip d'Oscar, arrête ça.
1.
Il est de retour.
Qui est de retour?
C'est pas ma faute si je fais le mal.
De quoi tu as peur?
Docteur, croyez-vous en Dieu?
Et vous, mon père? Croyez-vous au diable?
Tu me disais que tu avais développé le scénario avec le producteur pendant 11 ans.
C'était après qu'on a la frustration, donc ça devait être 2009. Et je l'ai tourné, je sais pas, je suis très mauvais en calcul, j'ai tourné en 2021. Bah, 10 ans. Voilà. 10 ans d'écriture, d'aller-retour. Avec, c'est le rôle de producteur. Après, c'était une commande, ce film aussi. Donc, au bout d'un moment, je suis assez respectueux. C'est-à-dire qu'on me donne des sous et on me fait une commande, je vais essayer de l'honorer. Mais pour qu'au bout de 10 ans d'écriture, on en revienne quasiment aux étapes du départ, quoi, tu vois.
Sabrina, est-ce que tu te verrais développer un scénario pendant 11 ans?
Non. Non, non, clairement, non. Ouais, mais je me doute bien. Mais non, en 11 ans, je pense que j'en aurais fait 11. ça m'ennuierait. J'aurais même plus envie de le tourner après.
Qu'est-ce que tu vois?
fatiguée, tu vois. Tu vois rien.
L'idée qu'on s'en faisait, 2023.
Ce qu'il y avait, c'est une putain de chanteuse ratée. Elle, c'est une danseuse ratée. Elle, c'était une styliste géniale ratée. Toutes des putains d'artistes géniales qui ont oublié leurs rêves. Et moi, tu vois quoi? Tu vois encore moins que rien. Parce que moi, je suis une femme ratée. Je serai jamais une artiste accomplie. Je suis pas une épouse. Je serai pas une mère non plus. Mais moi, j'ai rien construit. Moi, j'avais juste un rêve. Un rêve auquel je me suis accrochée comme une folle. Et ça marche pas. Et c'est injuste, putain. Alors moi, je serai jamais une femme normale. Je serai pas traditionnelle. Et je m'en branle. Parce que je hais le traditionnel. Je hais la médiocrité. Je hais les gens qui abandonnent leurs rêves. Je me hais, putain.
Alors Marseille, c'était la facilité. C'est-à-dire que moi, j'avais une famille qui travaillait la nuit à Marseille, qui avait des bars, des boîtes, des restos. Donc j'avais tous les décors que je voulais, c'était très simple. Puis à Marseille, à l'époque où j'avais la flemme de faire des dossiers, ce qui est toujours le cas, tu posais un pied de caméra n'importe où, on ne venait pas te voir, quoi. Ou si on venait te voir, c'était très cool. Donc moi, j'ai pu tourner dans tout Marseille sans autorisation, et parfois même avec le soutien de la ville, hein. Mais... c'était simple, Marseille. C'était très simple, Marseille, pour moi. Plus que pas. J'ai jamais tourné un film à Paris. Hein. Jamais. Alors que je suis parisienne. Non, ouais. Tout est plus simple à Marseille, je trouve. Et la lumière est plus belle. Et comme j'adore tourner en lumière naturelle, évidemment, Marseille, c'était une évidence.
Alors, je vois sur la table le livre de Cassavetes.
C'est mon idole, c'est l'indépendance déjà. C'est un acteur qui allait travailler sur des films, des séries pour se faire de l'argent, pour faire ses propres films. Puis j'adore son cinéma, j'adore Gloria, j'adore Une femme sous influence, j'adore Opening Night, Faces, Husband, je les ai tous vus. Et je trouve que c'est un super directeur d'acteur. On n'a plus vu de film comme ça depuis Cassavetes. Il y a quelque chose de... On sent que c'est fait avec le cœur, avec la rage de vaincre, avec la niaque, et que c'est libre. Qu'il n'y a pas de major autour. Quoi.
Mais il s'est construit contre Hollywood.
Voilà. C'est pour ça que j'adore Cassavetes.
Donc c'est ton modèle.
Ouais, je suis un imule de Cassavetes. J'espère avoir ce niveau un jour.
Tout pour l'acting, c'est ça le plus important?
Ah oui, oui. Moi, je... Dans ce que je réalise, je me sens pas une réalisatrice. Je pourrais pas faire un film de commande, par exemple, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir le talent pour, ou le travail, parce que je crois pas trop au talent, mais d'avoir la légitimité de faire le film de quelqu'un d'autre. Je sais faire que mes films que j'ai écrits, que j'ai pensés, qui viennent du cœur. Et du coup, de diriger les acteurs, moi, je suis plus... Voilà, l'important pour moi, c'est scénario, acting... J'ai pas cette patte qu'ont des grands, grands réalisateurs de, que l'image accompagne, la sémantique de l'image et tout. J'avoue que moi, j'adore Festen, j'adore le dogme.
Toi, tu veux pas rentrer dans l'industrie du cinéma français? Ça t'intéresse pas ou... Parce que t'arrives financièrement à gagner ta vie avec ton école, mais si c'était pas le cas, comment tu ferais?
Bah, si c'était pas le cas... Tu sais, quand je choisis mon école, ça fait que 7 promotions, donc on va dire 6 ans qu'elle est là. Et j'ai dû faire 3 films seulement depuis que je l'ai, ou 4. Mais avant, j'étais endettée, comme là, avec des plus petites dettes, bien sûr. Mais j'étais serveuse et je payais mes films avec mes salaires de serveuse. Je faisais des gâches à droite, à gauche. J'ai toujours payé mes films comme ça. Hein. Donc s'il n'y avait pas l'école, je retournerais sûrement à trouver un moyen de les faire. Mais maintenant que je suis devenue productrice, même si je ne vais pas forcément demander des aides, parce que c'est long, etc., j'ai, à force d'avoir des images à montrer, de montrer que mes films se font, etc., j'ai quand même des gens qui investissent, des mécènes, des investisseurs privés. Moi, je suis plus dans le privé que le public, ouais.
Et c'est quoi alors tes grands rêves?
Mes grands rêves, c'est d'avoir l'indépendance. Je suis à deux doigts de mon grand rêve, en fait. C'est-à-dire que si mon film, là, qui sort au cinéma, que je distribue moi, fait un carton, disons. Et un carton pour un film low cost, c'est pas ce qu'on s'imagine, c'est pas des millions et des millions d'entrées. Bah c'est bon, j'ai plus besoin de personne. Parce que, et ça c'est mon grand rêve. Mon grand rêve c'est de faire du cinéma et de pouvoir tourner autant que je veux et de devenir, on va dire, la boîte de prod ou la boîte de distrib la plus rentable du cinéma français. Moi, j'ai la foi. Avec la foi et un effort extraordinaire, je suis sûre que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Donc,
Tu penses pas que c'est un handicap d'être à Marseille pour se faire opérer par les prods ?
Non, parce que le cinéma, maintenant, on peut tourner des films à Marseille et on peut les sortir dans le monde entier, par exemple. Maintenant, il y a les festivals.
Sabri Jarod.
Donc c'est très bien pour nous, pour les films, on va dire, guérilla, parce qu'on peut les montrer à des personnes du cinéma. Marseille, non, c'est pas handicapant. Au contraire, même. Les gens de Paris viennent tourner à Marseille parce que le décor est magnifique ici.
Mais ils ne produisent pas des Marseillais.
Ils ont des productions parisiennes, ils ont des acteurs parisiens, et ils ont les décors marseillais et les figurants marseillais. Donc, on n'a pas envie de tomber dans ce système, donc c'est pour ça qu'on fait nos projets et qu'on se met en acteurs principaux, par exemple.
Alors pourquoi, toi qui as fait justement pas mal de clips, c'est l'école du système D, le clip. Oui. Pourquoi ne pas oser faire un film libre comme nos amis là, avec la liberté totale, sans contrainte? Pourquoi ne pas explorer cette possibilité-là avec justement tous les moyens techniques?
La création, le cinéma n'est qu'accident. Effectivement, je pourrais cadrer tout seul mes plans, je pourrais l'éclairer tout seul, je pourrais le monter ou le post-prodé tout seul. Je pourrais faire ça pendant un an ou deux ans tout seul. Le problème, c'est que je suis obligé de manger aussi. J'ai des enfants, comme tout le monde, quoi, tu vois. J'ai un loyer à payer et que je bosse à côté. Et que si je disparais pendant autant de temps, je suis pas sûr que dans deux ans, on me disait, au fait, t'as fini, je voulais bien faire une pub ou un clip, ou, tu vois. Donc, j'essaie de ménager vraiment la chèvre et le chou. Et il y a aussi que, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que je suis tellement fan de l'image que je peux pas laisser passer trop d'accidents dedans. Si des choses valent un prix, c'est que ça les vaut. Et qu'en plus, il y a 30 ans ou 20 ans, j'aurais demandé à mes petits camarades, chef op, monteur, chef électro, styliste, de venir parce que j'avais un projet de film et que il n'y avait pas un E pour qu'on le fasse. Ils m'auraient peut-être dit oui. Le problème, c'est que je suis associé, hélas, à ouais, non, mais le mec, il a réussi, le mec, il travaille avec IAM. Bon, j'ai rien réussi du tout. Oui, je travaille peut-être avec IAM, mais IAM, vous ne connaissez pas les termes de nos contrats. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus grand monde qui voudrait travailler gratuitement pour un projet.
Sabri,
on peut faire des belles choses avec très peu de moyens. Maintenant, il y en a qui font des films avec des iPhones, pour te dire. Donc avec un téléphone, tu peux faire un film et le sortir au cinéma. Bon, il faut vraiment que le film il soit bien, avec des bons objectifs, etc. Mais si on a une bonne équipe, qu'on est motivé et qu'on a un minimum de matos, honnêtement, ouais, tout est possible. Le plus dur, maintenant, c'est même pas de faire le film, c'est de le sortir. Ouais. C'est de le montrer aux gens.
Sortir du lot.
Voilà, c'est ça qui est dur.
Techniquement, c'est peut-être tourné à l'iPhone, mais je pense que c'est réqué sur d'autres...
Oui, sûrement.
Voilà, et tu as des objectifs de fou, et c'est derrière, c'est gonflé. Donc en fait, ok, tu peux le faire à l'iPhone, mais ça va te coûter une blinde derrière pour que ton image ressemble à quelque chose. Parce que je te jure, tu prends ton iPhone, tu te filmes comme ça, tu dis je vais me mettre au cinéma, tu vas faire ça, merde.
Rentre chez toi. Sous mes photos, y'a mes potos. Y'a des poutons, y'a des crudos. Des Corsico, Sicario. Coupe Puccico, coupe son déco. Sous mes photos, y'a mes potos. Y'a des poutons, y'a des crudos. Des Corsico, Sicario. Coupe Puccico, coupe son déco. Sur 530, t'as le vario. La route elle trempe, sale salon. Une joie grand mort, on sale amis. Les putes, les fiottes, en creux salis. Ça se fume, ça skill, Marseille anime. Bruxelles à Lille, on brousse, ça se file. Que des bandits comme en Sicile. Y'a les mêmes gants, les mêmes habits. Bagarre terrasse, qu'on m'a démon. Bouge la terrasse, là j'ai le démon. Ça fait long monde, sous que je les monte. Vas-y, démarre, viens, on le démonte.
Je m'appelle Milo Chiarini, je suis acteur réalisateur. J'ai réalisé un long métrage qui est sorti le 19 juin dernier qui s'appelle Mon Milieu.
Toi, tu as grandi à Marseille, dans quel quartier?
Alors j'ai grandi à la cité Saint-Louis, dans le 15e arrondissement, juste à côté. C'est une cité qui est juste à côté de la cité Consola, qui est un peu plus grande. Et donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 20 ans. Et après je suis parti, j'ai rencontré mon ex-femme, et donc je suis parti dans le centre-ville. Et j'ai passé tout le reste de ma vie dans le centre-ville. J'ai 52 ans maintenant, et depuis tout ce temps je suis ici.
D'origine italienne, de quelle région ?
Corse et Sicile. Mon père est gitan. Alors mon père, que j'ai pas connu, enfin, que j'ai connu, que j'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais lui, par contre, est gitan.
De quelle région ?
Catalan. Alors que j'avais beaucoup de mal, moi, à l'école. J'étais un très, 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 très mauvais élève. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. J'ai commencé, pour te dire, j'ai commencé à savoir réellement écrire, sans faire trop de fautes. Je devais avoir 25, 26 ans. Donc j'ai mis...
C'était dû à quoi ?
J'ai un autisme qui fait que l'enseignement, il passe pas forcément bien. Ça, c'est ma psy qui me l'a dit, parce que sinon, je l'ai jamais su de toute ma vie, en fait. Et donc, voilà, j'avais beaucoup de mal avec les enseignants. Et donc, j'arrivais pas.
Enfant ou adolescent, tu t'intéresses au théâtre ?
Alors, ça m'est venu très jeune. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 11 ans. J'ai découvert ça en 6e. J'avais une prof de français qui était prof de théâtre à côté, avec laquelle j'ai pris pas mal de cours, et elle a réussi à cette époque-là à me faire passer un truc. Parce que moi, de là où je viens, c'est quand on a 11, 12 ans, qu'on dit je veux faire du théâtre, non, ça marche pas. Il faut faire du foot, il faut faire de la boxe, il faut faire du théâtre, ça passe moins. Mais bon, je l'ai fait quand même, et j'ai joué au foot aussi, et j'ai fait aussi de la boxe. Mais à côté, je prenais des cours de théâtre et des cours de piano, parce que je suis pianiste aussi.
Et donc, tu as travaillé 20 ans dans la police ?
22, ouais.
Dans quel...
22 ans, j'ai été à Paris, à Marseille. J'ai été principalement dans des services de voie publique, des services d'intervention. Les 12 dernières années, j'étais dans un groupe qui s'appelait le GSO, groupe de soutien opérationnel. C'était un groupe, entre guillemets, un groupe effraction. On s'occupait de tout ce qui était interpellation de personnes dangereuses ou fichiers grand banditisme, tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une action un jour qui a failli me coûter extrêmement cher. Et quand je suis rentré chez moi, je vivais chez mes grands-parents parce que j'ai été élevé par mes grands-parents. J'ai pas de père. Mon père, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu qu'une fois. Et ma mère, qui a une vie particulièrement difficile, je n'ai jamais vécu ne serait-ce qu'une minute avec elle. Et j'ai vécu par contre avec mes grands-parents. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui m'a tout apporté, tout. J'ai eu cette chance, malgré que je sois né dans une cité, malgré que j'ai grandi en cité, malgré que j'ai connu les galères de cité, j'ai eu cette chance, moi, d'avoir cet homme dans ma vie. Et je te raconte tout ça pourquoi, parce que voilà, le jour où j'ai fait cette action, où je m'en sors bien, après 48 heures de garde à vue, je m'en sors très très bien, et je rentre chez moi, et alors que lui, c'était un homme particulièrement fort, dur, et je le vois pleurer. Je le vois pleurer parce que lui, pour lui, il était persuadé que je partais au Baumettes. Et il avait peur pour moi. Il pleurait de peur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais frère, tu n'as pas le droit, en fait.
You're a big man, is that it? You're a big man?
I don't need a gun to be a man.
Et donc, c'est ce qui m'a fait ensuite devenir flic. Et je suis parti à l'opposé, quoi. Voilà. J'ai vrillé, je suis rentré chez les flics.
What made you what you are? All I ask you is to leave Reuben alone. Please. Even you must know there's nowhere you can go anymore. You have destroyed us. You have destroyed our family.
Ça fait penser au film de James Gray.
Ah, mais là, tu parles de James Gray, c'est mon maître, James Gray. Little Odessa, c'est vraiment mon film référence.
Et alors, c'est quoi le pitch de Mon Milieu ?
Donc, c'est l'histoire de Nico qui a passé 22 ans en prison pour un triple meurtre qu'il a fait quand il avait une vingtaine d'années. Et il l'a fait pour briller aux yeux d'un caïd du coin. Et donc quand il sort par contre de prison, il veut plus briller de quoi que ce soit, il veut revoir sa famille qu'il a pas vue pendant 20 ans, et quand il va les revoir, ben voilà, lui en fait il veut revoir sa famille, il veut profiter de sa vie, de sa nouvelle vie, du temps qui lui reste, et il va tomber amoureux d'une meuf qui s'appelle Nora, mais qui est la petite sœur d'un caïd de cité, d'une tête de réseau de cité, et donc ça va créer des tensions, c'est un peu un Roméo et Juliette, version Corse et caïd de cité.
Tu vas faire quoi maintenant?
Profiter des miens. Et rester loin des bombettes.
Tu penses que je peux t'aider pour profiter pleinement?
Mon milieu 2024.
Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est uniquement parce que Titi a insisté. Moi, j'ai rien à vous demander. J'étais un gamin quand ça s'est passé. Alors, ils disaient dans tout le quartier que vous étiez en guerre avec les Lucchesi. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu soit vous impressionner, soit jouer au petit caïd. Et je les ai tués. Et je ne sais même pas s'ils méritaient ce que je leur ai fait.
J'ai été surpris quand j'ai su qu'ils s'étaient fait calibrer, vu que je n'avais jamais donné l'ordre. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça m'a servi. Et quand j'ai su que c'était toi, un gamin du quartier, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu dises mon nom. Je me suis dit, je ne veux pas de perpète pour un truc que je n'ai pas fait, avec tout ce que j'avais fait dans ma vie où je ne m'étais jamais fait attraper.
Si je n'ai jamais donné votre nom, c'est parce que vous ne m'avez rien demandé.
Si tu savais le nombre de voyous qui balancent tout et n'importe quoi juste pour avoir une permission...
Je suis pas un voyou.
Non, mais tu fais peut-être partie de cette minorité pour qui le mot honneur a une signification.
Idéologiquement, je ne kiffais plus du tout l'univers policier, je ne kiffais plus du tout la hiérarchie policière, la haute hiérarchie policière et leurs objectifs et tout ça. Je me retrouvais absolument plus dans ce métier de flic. Mais attention, c'est pas pour ça que je suis redevenu acteur. Non, c'est parce qu'en fait, ça me manquait viscéralement de jouer. Et après, ça s'est enchaîné. Après, il y a la rencontre avec Sabrina.
Sabrina Nouchi.
Oui.
Tu la rencontres dans quel contexte?
On se rencontre à une avant-première d'un spectacle d'un ami commun. Et 10 ans après, on vit ensemble. Sabrina, à l'époque, elle allait tourner un film qui s'appelait Juste Sam. Et elle me propose un rôle dedans que j'accepte. Et
donc, là, t'es plus flic?
Je suis toujours flic. En fait, je suis plus flic depuis 3 ans seulement.
Tu veux devenir comédien professionnel.
Ouais.
Donc tu enchaînes les tournages en tant qu'acteur.
Ouais.
À quel moment tu passes à la réalisation?
D'abord, j'ai co-réalisé avec Sabrina. Un jour, on a une discussion. On n'est pas ensemble à l'époque. On n'est pas encore ensemble. Et on a une discussion et elle me dit parce que je me plains. Je me plains que c'est compliqué de trouver des agents. Je me plains que c'est compliqué de connaître aussi 100 milliards de dircast. Je suis en fait dans un mood où je me plains. Et elle me dit, tu aimerais quel rôle, si tu étais une star aujourd'hui, quel style de film tu aimerais vraiment faire? Et je lui dis, j'aimerais faire un film, j'aimerais faire mon Rocky. Si j'étais une star, j'aimerais faire mon Rocky. Et elle m'a dit, vas-y, viens, on le fait. Et je me suis dit, elle est complètement dingo, cette meuf. Et peut-être 6 mois après, on tournait en Grand Pound.
En Grand Pound?
Ouais, je connaissais pas du tout le mode film guérilla. Je savais pas que c'était possible de faire un film avec 4000 euros. Non. Moi, j'avais dans ma tête, j'étais encore resté à la pellicule. Ou 4000 euros, c'était 1 cm de pellicule.
Tu me dis ce qui va pas?
Tout va bien.
On se ment maintenant. Il voulait quoi, le patron?
En Ground and Pound.
Il veut que j'aille m'entraîner avec son neveu.
2016.
Ça fait des années qu'il me prend la tête avec ça. Pour que je recombatte. Voilà. Là, il est pas con, il a trouvé l'astuce. Et je peux pas dire non.
Et t'as pas l'air emballé?
Du tout.
Pourquoi?
Je sais pas, il y a que des jeunes en début de carrière, là, non? Je suis plus à ma place. Franchement, j'ai plus le niveau.
Si t'avais le niveau et que tu te sentais à ta place, tirée? Eh ben voilà, c'est réglé, t'y vas.
J'y vais alors.
Vous écrivez ensemble le scénario?
On écrit en Grand Pound ensemble. Ensuite, elle, de son côté, elle monte toute l'équipe technique. Et elle me dit, non, en fait, il faut, en fait, c'est très simple. Elle me dit, si tu veux tourner, il faut réaliser. On va pas venir nous chercher. Et c'est vrai que je me disais, ben non, un acteur, on vient te chercher normalement. Un acteur, tu es là, tu attends que ton téléphone il sonne. Et après, en fait, je me suis dit, non, c'est pas une bonne gamberge, ça, parce qu'il sonnera peut-être jamais, en fait, mon téléphone.
Donc, du surtout
coup,
à Marseille.
Surtout à Marseille. Donc, du coup, je vais l'écouter, je vais le faire. Alors, j'étais pas chaud du tout de base. Hein.
Alors, ce film, vous l'avez fait avec 4000 euros.
Ouais, c'était rien, quoi. C'était que dalle.
Et quelle a été la visibilité de ce film?
Zéro. Ah si, nos potes, ils l'ont vu. Toi, je sais que tu l'as vu. Mais non, il n'y a pas de visibilité, parce qu'après, c'est... Quand il faut le distribuer, ben, je sais pas comment on fait. Et finalement, le film est resté dans, est tombé aux oubliettes et
voilà. Il n'est pas sorti.
Et il n'est pas sorti. Par contre, il n'est pas sorti, mais toutes les personnes qui l'ont vu, il a touché par moments toutes ces personnes à chaque fois.
Il tient grave la route.
Oui, quand même. Ouais. Mais je me dis, waouh, c'est quand même beaucoup de sacrifices, beaucoup de galères, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'argent dépensé. Il faut savoir que tous nos films, à 99,9%, ils sont financés, c'est nous qui les finançons, ou c'est nous qui allons nous faire prêter de l'argent, et qui, à un moment donné, il va falloir qu'on leur rende cet argent. Et à une époque, c'est rigolo, à une époque, après juste une mise au point qu'on a financée, on s'est endetté. Alors, c'était pas une grosse dette. Mais quand tu es galérien et que tu as que dalle, c'est une grosse dette. On devait peut-être 20 000 balles. Ah, c'est lourd, 20 000 euros, quand tu n'as pas d'argent.
Mais alors, dis-moi, pour Sylvie, parce qu'il n'y a ni le packaging, ni l'emballage, c'était quoi le concept, en fait?
Juste une mise au point.
Tu voulais faire dans le social?
2020.
Comme pour la bande?
Ferme ta gueule, avec ma femme.
Et toi, tu vas fermer ta gueule.
Non, ça va pas, tous les deux. Hein? Malade.
On décide du pitch. 4 jours après, Sabrina a bouclé le scénario. Elle, quand elle a un truc, elle est déterre. Et elle boucle le scénario. Et franchement, il tient la route, ce scénario. En 4 jours, il tient plus que la route. Le scénario bouclé, ben allez, on commence, on cherche les acteurs. Donc, on s'entoure que de notre team. Donc, on budgète le film. Je crois qu'il coûte 20 000 balles, mais qu'on n'a pas. Et quand on part... On part pour 15 jours de tournage, donc c'est un huis clos, on réussit à le tourner en 15 jours. On part pour 15 jours de tournage en se disant, on ne sait même pas comment on va faire pour payer demain. Et en fait, on a jonglé, on a fait des jonglages de ouf. Au bout des 15 jours de tournage, Mazel Tov, tout le monde a été payé, quoi, tous les loueurs ont été payés, alors qu'il y avait 0 euros au jour 1. Jour 15, on réussit à avoir l'argent. Et donc, tu vois, c'est pour te donner une idée, pendant des mois, c'était mon fils qui me mettait de l'essence dans ma voiture, t'imagines ? Mon fils me mettait de l'essence dans ma voiture, mes potes au travail m'achetaient des paquets de cigarettes. Cassavette, merci, grand respect pour vous et ce que vous avez fait, mais c'est compliqué, très 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 compliqué. Mais c'était à faire et je ne regrette pas.
Et donc ce film sort en salle dans une salle au Saint-André-des-Arts à Paris, c'est ça ?
Il sort au Saint-André-des-Arts. Par contre, malheureusement, il sort le premier jour du confinement. Donc ça, Non, mais en fait, quand tu y penses... Non, mais c'est drôle, mais en fait, c'est pas drôle. C'est parce que des fois, c'est pas drôle. J'en parlais aujourd'hui à ma psy, c'est important. J'en parle aujourd'hui à ma psy et je lui dis c'est ouf parce que moi je m'oblige réellement à avoir une façon de penser, à savoir que si on lâche rien, on y arrive, qu'il y a que ceux qui ont à un moment donné décidé d'arrêter qui verront jamais le bout du tunnel, et que si on continue à forcer, on augmente tellement les chances de réussite et on diminue tellement le risque de ne pas réussir que forcément on réussit. Ça, c'est ce que je m'oblige à penser. Et je dis bien, je m'oblige, parce que quand tu sors un film, que tu es hyper content, que tu as galéré, parce que le premier film, tu ne l'as pas sorti, le deuxième, tu te dis, ah ben super, je le sors, bon, dans une salle. Mais
à Paris.
Mais à Paris. Mais bon, tant pis, il sort, c'est super. et que là, tu as un politique à la télé qui te dit, frère, c'est fini, tu restes chez toi, et toute la France restait chez vous, et le monde entier restait chez vous. Et là, tu te dis, mais c'est un truc de ouf, en fait. Elle est où, tu sais bien d'y croire, mais à un moment donné, frère, ne crois en plus rien, retourne travailler à la poste, et puis voilà, et tu fais ton taf, et c'est réglé, et tu ne casses plus les couilles. Non, mais c'est vrai. Et après, on peut aller plus loin, quand tu sors mon milieu. Mon milieu, ça a été...
Donc ton troisième long métrage en tant que réalisateur, là tu es tout seul ?
Là je suis tout seul, alors tout seul, oui, oui et non. Sabrina, elle est directrice artistique sur le film.
Et productrice.
Et productrice. Mais voilà, je te parlais de mon milieu, pourquoi ? Parce que ça a été une dépense d'énergie de psychopathe. Là pour le coup, une dépense d'argent de psychopathe aussi. On n'est plus sur les 20 000 euros de juste une mise au point ou les 4 000 balles d'un Grand Pound. On est au niveau bien bien au-dessus.
Combien ?
150. Et...
Autoproduit ?
Ouais. Avec des cofinanceurs, mais... Avec des cofinanceurs.
Et donc là, l'objectif, c'est de le mettre dans le circuit classique ?
Alors à cette époque-là, quand je fais ce film, je veux à tout prix, je veux faire Cognac.
Le
festival de Cognac, ouais. Parce que Cognac, pour moi, c'est depuis toujours, j'ai en tête le festival du film policier.
Polar,
ouais, de Cognac. Et je le fais pour avoir Cognac. Et ensuite, je me dis, bah, après, ça va nous faciliter pour avoir une distrib ou autre. Et donc, on le fait, on a Cognac. On a eu un accueil, mais de psychopathe à Cognac. C'était un truc de ouf. J'ai passé 48 heures à Cognac à me prendre pour Georges Clooney. C'était impressionnant, dans la rue on nous arrêtait parce que les gens ont vu les gens de Cognac se déplacent au festival de Cognac et ils ont vu mon milieu, ils ont plus qu'adoré, c'était impressionnant. Mais par contre après ça a pas suivi mon plan, s'est cassé la gueule. Il a été bon jusqu'à Cognac, après il s'est cassé la gueule et on n'a pas eu cette distrib que j'espérais pouvoir avoir. Après la sortie du film en juin, cet été, là, encore pas très longtemps, en août, j'étais au bout de ma life parce que je me disais, putain, mais ça sert à quoi? Alors c'est super le cinéma guérilla, c'est super, il faut faire les choses, on fait, on apprend, au plus on apprend, c'est super. Mais à l'arrivée, frère, tu galères. À l'arrivée, ton film, il est vu par quatre personnes et c'est les quatre personnes, il y a trois qui sont de ta famille. Donc autant leur envoyer le lien et autant en fait... Mais voilà, ça c'était un discours très négatif qu'on peut se permettre d'avoir.
Et du coup tu t'es dit je vais faire un job
Ben à l'époque, ben enfin cette époque elle est pas très bien, elle a un mois. Hein. Et il y a un mois ouais je me suis dit ben tu sais quoi, vas-y reprends ton taf en fait. Et attends que ton téléphone sonne, point. Voilà. Et s'il doit sonner, ben il sonnera. Et s'il ne doit pas sonner, ben il ne sonnera pas. C'est comme ça.
Allô ?
On va se faire une petite réunion de famille à la boîte. Hein. Et tu vas dire au vieux que c'est toi qui a calibré Paolo, tu as compris ? Tu ne fais pas ce que je te dis, je vais la massacrer. Hein.
Mais la bonne nouvelle, c'est que des personnes très très importantes dans le métier ont vu mon milieu, gros producteurs, qui ont décelé quelque chose et qui m'ont proposé autre chose. Et je vais pas rentrer dans les détails.
L'adaptation.
Une adaptation, oui.
Avec du casting.
Avec un peu plus de. Oui, avec du casting.
Gros casting.
Voilà. Avec du gros casting, avec beaucoup, beaucoup plus de moyens pour pouvoir amener le film beaucoup, beaucoup plus loin que là où il s'est arrêté.
Avec toi mais en par rôle contre, principal.
Avec moi en rôle principal, mais pas moi à la réalisation. Ça fait partie des conditions que j'ai acceptées sans problème. Parce que...
Et c'est donc Sabrina Nouchi.
Ce sera Sabrina
Wachi,
mais bon, là, tu me fais dire beaucoup de choses.
Financé.
L'industrie m'ouvre la porte d'entrée. D'habitude, j'essaie de passer par la cheminée ou la fenêtre. Là, on m'ouvre la porte d'entrée et j'ai 52 ans. Mais pour d'autres, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. C'est chacun sa chance, en fait, et chacun son parcours. Celui-là, c'est le mien.
On va faire un petit jeu. C'est le Mars Test. Selon vous, chacune,
vos trois films marseillais préférés.
Manon des Sources et Sherazade.
Bon, Sherazade, je valide. Bagnole, voilà. Si, si, on va dire qu'il compte que pour un. Qu'importe ce qu'il ait fait, il y en a tellement. Et c'est, enfin, d'abord, c'est un écrivain, un vrai. C'est un vrai auteur et ses textes pour l'époque sont incroyables. Et puis le mec, c'est pareil, il est revenu à Marseille, il a refait sa prod sur Marseille. Et lui, dès les années 30-40, il s'est dit la maison, c'est ici. Et ouais, les studios. Ah ouais.
Déjà, Sherazade. Après, j'ai eu la chance de tourner avec Gillan aussi, très bon acteur. Un film, un vieux film, mais que j'ai adoré quand j'étais jeune. Comme un aimant, c'est ça, avec Akhenaten.
Oui, voilà.
Honnêtement, j'ai dû le voir une vingtaine de fois ce film. Je le connais pas.
On les a donné.
Comme un aimant, il est incroyable.
C'est
de
clair.
Qui de qui Merde.
Akhenaten.
C'est Akhenaten qui l'avait. Bah, bien sûr. Je savais même pas. Kamel Salé, je sais parce qu'il avait co-réalisé la série avec. Enfin, il avait fait une web série il n'y a pas longtemps. Et mais par contre, à Canada, je ne savais pas, tu m'as appris un truc. Oui. Mais ce soir, je le regarde le film. Allez.
Comme un aimant, c'est la référence.
Et oui.
Où tu vas encore à cette heure-ci, parfumé comme une femme? Tu n'as pas honte? Tu te prends pour un homme? Mais tu n'es pas un homme. Un homme, ça travaille.
Ça fait 12 putains de stages que je fais dans le bâtiment. Il n'y a pas de travail, il n'y a que de la bricole.
Si tu étais allé à l'école, tu en aurais les diplômes.
Je vais te dire un truc. Même les docteurs, avec les diplômes qu'ils ont, ils touchent pas une bille. Alors, ne fais pas la leçon sur les diplômes.
Hein. Regarde-moi là, celui-là. Même les docteurs, c'est rien avec lui. Tu t'es regardé? Tu es une merde. Un vaurier.
Ça y est, tu as fini, je peux y aller, c'est bon? Tu me lâches?
Tu vas pas me dire que tu vas travailler dans la journée?
Ouais, c'est ça. J'ai un stage, on n'a pas toujours les mêmes horaires.
C'est ça, va retrouver la racaille de ton espèce. Allez, va.
Chaud comme Marseille, le cœur de la ville s'enflamme quand le son entre en jeu. Les préoccupations des frères s'infiltrent dans ton Walkman.
Merci à Sabrina Nouchi, Milo Chiarini, Didier Darwin, Sabri Jarod. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau, Emmanuel Laurentin. Renouveau du cinéma marseillais, Massilia Guérilla, épisode 2, Guérilla ou Industrie. Une série de Pascal Tessot et Gaël Gillon. Prise de son, Julien Girard. Mixage, Manon Houssin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr. Et le podcast sur l'appli Radio France.
Check le mic, taquiner la rime et le beat est mon véritable hobby. Envoyer des tils pour tous les frères qui niquent la haine. Pour la première fois, le refrain commence comme ça.
Tranquille au bar et pompe dans le pétard.
Tu reconnais bien là le style de bad boy de Marseille.
Je suis sombre et gage dans les couloirs.
Tu reconnais bien là le style de bad boy de Marseille.
Ta gare et ta voiture ici trop tard.
Tu reconnais bien là le style de bad boy.
Calciner les rimes comme une clope en garde à vue. Le hip hop au top descend le long de la rue et se saisit du showbiz à son insu. De leçon qui touche de près mes entrailles. Au bercail, ma fonction est le travail. Je me comporte en canaille. Aïe, les mauvais garçons se collent comme des moucherons. Au jupon, frappe sans hésiter pour le pognon.
Comme les apaches, catch ton scalp, ton fric et la proie. Des hordes de chiens, des albans veulent à la tête de la croix. Mais pas moi, je suis droit, respecte les autres et crois au pouvoir de la rime dans la destruction des hasards.
L'été, les quartiers postent dans le bus. Que demander de plus, ce fut le fin coup de Vénus. Gus, soi-disant ma ville, pue en plus. Dieu, qu'a-t-il fait avec un anus au lieu des sinus? Simple, dans ma façon de faire, mon sang est rouge clair. Pourtant j'ai la peau noire, et fier de l'avoir. Je cours à la gloire des quartiers avec mes idées. Le produit sera toujours enragé.
Tranquille, bar et pompe dans le pétard.
Tu reconnais bien là le style des bad boys de Marseille.
Penché sombre et cadre dans les couloirs.
Tu reconnais bien là le style des bad boys de Marseille.
Ta gare et ta voiture ici trop tard.
Tu reconnais bien là le style des bad boys de Marseille.
Tranquille, bar et pompe dans le pétard.
Tu reconnais bien là le style des bad boys.
J'en ai marre de les voir flipper. Y'a pas que le mauvais côté.
concept. Les mecs qui s'en battent les couilles. Le bon délire est là, t'inquiète, on se débrouille.
Ne pas ces drive au coulo coulo. Voilà quelques mots pour l'avenir et certains de mes potos qui ont quitté les courtos. La rage est dans mon âme pour le drame du Front National. J'allume la flamme, la flamme.
Fils, comprends ce que tu peux comprendre. Un bon conseil prétend à ce que tu peux prétendre. Réfléchis un instant avant de faire un pas. Tu saisiras pourquoi on te lèvera où que tu sois.
Avant, je combattais contre des moulins avant. Maintenant, je fais vibrer les salles et le public en rappant. Ça tire au soleil, c'est des écales. Souvent dans mes chansons.
Tranquille au bar et popo dans le pétard.
Tu reconnais bien là le style des bad boys de Marseille.
Torche sombre et cardio dans les couloirs.
Tu reconnais.